Voilà, maintenant c'est en mode enregistrement.
Ok, bonjour à tous. Donc, on n'est pas beaucoup, donc si vous voulez poser des questions, il n'y a pas de souci. Je n'aurai pas réponse à tout, je vous dis à l'avance. Et voilà. Hein. Bon, bienvenue à ce cercle biblique consacré à un survol de l'Apocalypse. Alors, peut-être que, je ne sais pas, il y en a qui l'ont lu plusieurs fois, d'autres moins peut-être. Peut-être que la lecture de ce livre du Nouveau Testament vous laisse perplexe ou inquiet, ou pleine d'incompréhension. Alors, je ne prétends absolument pas ce matin avoir toutes les explications à la lecture de l'Apocalypse de Jean. Hein. Mais c'est dans la foi, en sa parole et dans l'œuvre du Saint-Esprit qui l'illumine que je me tiens devant vous. Et mon but ce matin est de vous donner quelques clés de lecture, quelques éclairages qui permettront de mieux saisir ou de tirer bénéfice de vos prochaines lectures de l'Apocalypse. Ou autre chose, hein, si peut-être que pour vous c'est déjà clair, mais que ça va juste vous rafraîchir, c'est toujours la parole de Dieu. Donc on va commencer par lire les premiers versets, Apocalypse, les huit premiers versets pour commencer. Révélation de Jésus-Christ. Dans cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Jean salue les sept églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui se tiennent devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Voici, il vient au milieu des nuées, tout le monde le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Tout d'abord, je voudrais revenir sur le verset 3. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Donc, c'est le premier d'une série de heureux. Hein. Il y en a sept dans l'Apocalypse, il y a sept béatitudes, qu'on appelle, on appelle ça des béatitudes, hein, souvent. Dans le chiffre 7, vous allez voir, revient continuellement. Déjà, vous avez vu là les sept esprits, hein, dans l'Apocalypse, c'est un marqueur de l'Apocalypse. Et donc, on se rend compte, à la lecture de ce verset, qu'il y a une bénédiction promise à la lecture et à la mise en pratique de ce livre. Il y a un lecteur, parce qu'elle est destinée à cette église dans sa première intention, et qu'à l'époque, assez peu de gens savaient lire. Il y avait donc un lecteur qui lisait à l'assemblée, et des auditeurs. Et les deux catégories sont déclarées heureux, pourvu qu'ils mettent en pratique ce qu'ils vont entendre. Et vers la fin de la prophétie, si on va tout à la fin, en Apocalypse 22:7, c'est Jésus lui-même qui s'adresse aux lecteurs et auditeurs de cette prophétie, et réitère cette promesse de bénédiction pour celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Je vais le lire rapidement. C'est Jésus lui-même qui parle. En 22:7, « Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. » Donc, on voit que le point de vue de l'apôtre Jean au début du livre, on vient de lire au verset 3 là, ou celui de Jésus vers la fin du livre, n'est pas forcément celui qui nous vient à l'esprit quand nous pensons à l'Apocalypse. Il faut dire que notre imaginaire, notre inconscient, a en mémoire des associations bien éloignées des béatitudes, des heureux qui, quand il entend le mot Apocalypse. Alors, par exemple, pour décrire l'enfer de la guerre du Vietnam, le réalisateur Francis Ford Coppola a intitulé son film dans les années 70 Apocalypse Now. Pour les plus jeunes, plus récemment, il y a eu toute une série de documentaires, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, il y a 3, 4, 5 ans, je crois, retraçant toute la Seconde Guerre mondiale avec son lot d'horreurs qui s'intitulait Apocalypse 39-45. Et dans le langage populaire, le mot Apocalypse signifie souvent catastrophe, fin des temps, chaos. Mais si le Seigneur Jésus lui-même et son prophète inspiré par l'Esprit déclarent heureux ceux qui mettent en pratique cette révélation, c'est qu'il y a une raison. Déjà, le mot Apocalypse en tant que tel signifie tout simplement révélation, dévoilement. En fait, dans le premier verset, nous lisons « révélation de Jésus-Christ », dans la plupart des versions, et en grec, littéralement, c'est « apocalypsis ». Le mot qu'on traduit par « révélation », c'est « apocalypsis ». Et en fait, le mot « apocalypse », c'est une transcription du grec. C'est-à-dire que ce n'est pas une traduction, c'est qu'on a pris et puis on l'a phonétisé en français. Mais ce n'est pas la vraie traduction. Et donc, du coup, on a collé sur ce mot « apocalypse » tous les sens catastrophiques qu'on vient de voir tout à l'heure. Mais en fait, il s'agit tout simplement d'une révélation, de quelque chose de caché qui est révélé par Dieu qu'on n'aurait pas su si Dieu ne l'avait pas révélé. C'est tout simplement ça. Ou un dévoilement aussi. C'est comme si, par exemple, il y avait une statue avec un drap ou une couverture que d'un coup, on dévoilait et la statue apparaissait. C'est tout simplement ça, le mot apocalypse. C'est le même mot qui est employé en Galates 1,16, le même mot en grec, en bas de l'original, qui dit que Dieu, quand Paul dit que Dieu lui a révélé son fils lors de sa conversion. C'est le mot apocalypse, pareil. Et dans le cas de l'apocalypse de Jean, cette révélation suit toute une chaîne. Au verset 2 et au verset 3, on va la relire. Révélation de Jésus-Christ, cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Donc Dieu l'a confiée à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. Et en tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Donc on voit qu'il y a Dieu qui l'a confiée à Jésus-Christ, Jésus-Christ qui envoie son ange pour la confier, pour la faire connaître à Jean, qui lui va l'envoyer, et ça va passer par le lecteur et les auditeurs. Donc cette révélation a été donnée par Jésus-Christ à Jean, elle a été donnée par Dieu à Jésus-Christ, et donc c'est une révélation qui est donnée par Jésus-Christ, donc révélation de Jésus-Christ, et elle concerne Jésus-Christ aussi. C'est comme ça qu'on peut lire le premier verset, parce que vous allez voir que Jésus-Christ, Jésus-Christ, l'agneau victorieux, est la personne centrale de toute l'Apocalypse. De l'Apocalypse n'est pas là pour nous annoncer des catastrophes, elle est là pour nous montrer que Jésus-Christ règne, que l'agneau a vaincu. C'est ça le thème principal de l'Apocalypse. Ce n'est pas un livre codé que l'on devrait décrypter pour analyser les événements politiques qui nous entourent, ou du moins pas de manière précise. Il n'y a pas des codes dans l'Apocalypse, il y a des symboles. Par exemple, on ne peut pas dire « Ah oui, telle prophétie, ça me fait penser à ça ». Par exemple, au moment, il y avait les 10 cornes. Il y a des gens, quand l'Europe est arrivée à 10, ils se sont dit « Ah voilà, les 10 cornes, c'est l'Europe ». Puis maintenant, on est en 27, ils sont bien embêtés avec leur explication. Parce que... Donc... Symbole. Voilà. Donc nous allons voir dans tout le livre d'Apocalypse qu'il y a aussi de nombreuses visions de Jean, et ce dernier bénéficie des révélations divines, soit en étant mené au ciel, des visions, soit en ayant la visite d'un ange qui lui transmet ses révélations. Et cette présence plus que normale des anges est un trait d'une catégorie de littérature qu'on appelle le genre apocalyptique, et qui existait beaucoup à l'époque de Jésus, un petit peu avant et un peu après. Donc, il y a eu des apocalypses juives, c'est-à-dire entre les 400 ans de silence prophétique qu'il y a eu entre le dernier prophète et la venue de Jésus, les juifs ont écrit des apocalypses, des auteurs juifs. Et puis, dans au temps des chrétiens, celle qui a été retenue dans le canon biblique, c'est celle de Jean, il y a eu d'autres apocalypses. Donc c'était un genre littéraire qui existait à l'époque. On peut en trouver des traces dans Daniel, il y a des passages de Daniel, dans Ézéchiel aussi, dans Zacharie, dans Ésaïe un peu. Donc, comme je vous dis, c'est souvent un langage très symbolique, imagé, et la révélation est souvent donnée par des êtres angéliques ou par des visions où on est projeté dans où celui qui reçoit cette vision est amené au ciel. La difficulté pour nous, un petit peu, ce qui complique des fois la lecture de l'Apocalypse, c'est que ce genre a disparu à notre époque. Dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on a des récits historiques. Les récits sur l'Ancien Testament, les évangiles, les actes, ça, on s'y repère. Même s'il y a des ponts culturels, on s'y repère. Il y a de la poésie, on a continué à écrire de la poésie. Il y a des lettres, on a continué à écrire des lettres, à avoir de la correspondance, il y a des livres de sagesse. Mais l'Apocalypse a un peu disparu. Donc, des fois, c'est vrai que ça peut nous compliquer les choses, et c'était sûrement plus clair pour les lecteurs de Jean à l'époque. Mais on croit que heureux celui qui lit, qui met en pratique cette parole. Et on croit qu'elle a des richesses à nous apporter, évidemment. En plus d'être une apocalypse, c'est une prophétie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Dieu qui parle aux gens qui vont recevoir ces prophéties et qui attend une réponse des auditeurs, des lecteurs. Dans la prophétie, le prophète attend une réponse. C'est Dieu qui interpelle le peuple, qui peut l'appeler à la confiance, à la persévérance, à la repentance selon le besoin. Mais là où il y a prophétie, où il y a parole de Dieu, le prophète c'est celui qui parle au nom de Dieu, il doit avoir réponse de celui qui écoute. Et c'est enfin une lettre qui s'adresse en premier lieu à sept églises d'Asie mineure. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, elles sont citées un peu plus loin, c'est-à-dire la côte ouest de la Turquie actuelle. Et cette lettre circulaire, elle n'est pas à une seule église, donc, mais à cette église, est donc une prophétie qui utilise le genre apocalyptique. Ça va utiliser, c'est une apocalypse prophétique ou une prophétie qui utilise un genre apocalyptique et qui est envoyée à cette lettre. À cette église, excusez-moi. Et à l'église universelle aussi, parce que bon, c'est pas pour rien que Jean a pris sept églises. Okay, il y avait plus que cette église. Par exemple, à côté de l'Odyssée, il y avait Colosse, qui est cité dans le Nouveau Testament. Il y avait Hiérapolis, déjà on est à neuf. Enfin, il y avait plus que cette église. Volontairement, Jean a écrit à ces sept églises, qu'il connaissait. Jean salue les sept églises. Mais c'est en plus que ce soit vraiment adressé à cette église, ça s'adresse à l'église universelle de tout temps en tout lieu. C'est ce que symbolise 7. Le chiffre 7 qui va revenir symbolise la totalité. Alors Jean est l'auteur de cet apocalypse. Il se définit comme un serviteur de Jésus-Christ. Au début, on le voit. Pour qu'il montre un serviteur... je sais pas où c'est marqué. Fait connaître à son serviteur Jean. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. Donc, il se définit comme un serviteur de Jésus-Christ, ce qui était un honneur à l'époque. Nous, des fois, serviteurs, même dans l'original, c'est esclave, mais esclave ou serviteur, selon le contexte culturel, c'est mieux de traduire serviteur. Mais c'était un honneur, parce que plus votre maître était élevé, plus c'était un honneur d'être à son service. Certains serviteurs de maîtres très importants pouvaient être plus en vue que certains aristocrates. Donc, qui l'on sert, ça donne toute l'identité. C'est aussi un témoin. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui-même a transmise par son propre témoignage. Témoin comme son maître a été témoin, le thème du témoignage va revenir tout le long de l'Apocalypse. Il traverse tout l'Apocalypse. Le témoignage de Jésus-Christ et le témoignage des fidèles de l'agneau. C'est une clé de l'Apocalypse, une clé de lecture, c'est le témoignage. C'est aussi... en cela que c'est une prophétie, elle témoigne ce que Dieu dit. Le prophète parle au nom de Dieu. Il se qualifie aussi de frère, au verset 9, elle n'a pas encore lu ça. « Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus-Christ. » Un frère qui partage la condition de ses lecteurs, auditeurs, la détresse, le royaume et la persévérance. Les trois états sont liés. Actuellement, le royaume se vit dans l'union avec Jésus-Christ, puisqu'il n'a pas été pleinement révélé, et cela peut être... cela même à travers les épreuves et dans la persévérance. On verra que ça a un impact particulier dans le livre de l'Apocalypse. On voit que Jean connaissait cette église qu'il salue de la salutation habituelle des lettres du Nouveau Testament. On voit que c'est vraiment bien une lettre, c'est marqué. Où la grâce précède la paix. Jean salue les sept églises au verset 4 qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui se tiennent devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin, voilà. C'est une salutation trinitaire. Alors la grâce précède toujours la paix, c'est parce que nous a été fait grâce qu'ils peuvent goûter à la paix. C'est toujours dans cet ordre-là, et ce n'est pas pour rien que c'est dans cet ordre-là. Alors je vous ai dit salutation trinitaire, celui qui est, qui était et qui vient. Vous verrez que Jean emploie rarement le mot Dieu tout seul, mais il va y donner celui qui est, qui était, qui vient, celui qui siège sur le trône, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jean parle souvent par symboles, et des symboles qui sont très riches, et qui nous aident à comprendre qui est Dieu. Donc c'est là, c'est le Père, celui qui était, qui vient, les sept esprits devant son trône. Alors c'est l'action universelle de l'esprit, le trône nous rappelle qu'il règne. Et puis Jésus-Christ, qui est défini de trois manières. De la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Dont le mot de témoin revient encore, il précède le premier-né d'entre les morts, c'est peut-être pas innocent, parce que son témoignage l'a conduit jusqu'à la mort, il a été fidèle jusqu'à la mort. Le premier-né d'entre les morts qui parle de sa résurrection et qui parle du fait aussi qu'il a introduit la nouvelle création. Il est le premier, la nouvelle création a commencé avec Jésus-Christ. Il est ressuscité, il a le corps de la nouvelle création. et le souverain des rois de la terre. Beaucoup de choses sont dites déjà là. Le souverain. Hein? C'est lui, tout ce qui va se passer est dans ses mains. Quoi, hein? Puis après, il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés. Tout ça est très important. Sa présentation continue. Jésus-Christ nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous, pas il fera quand il viendra à nouveau, hein, un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui donc sont la gloire et le pouvoir pour l'éternité. C'est la première doxologie, la première adoration qui anticipe le chapitre 4 ou 5. Petit truc important que je vous dis là. Il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice et juste après, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. Ça, c'est repris d'Exode, du livre de l'Exode, après l'Exode du peuple d'Israël. Dans le chapitre 19, Dieu déclare à Israël qu'il est fait, que ça va être un peuple de rois et de prêtres à son service. Et là, juste après la délivrance de nos péchés par son sacrifice, l'Église est déclarée comme un peuple de rois, de prêtres au service de Dieu son Père. Ce qui veut dire qu'en fait, l'image de l'Exode, il y a plusieurs catégories. La catégorie du témoignage qui va traverser tout l'Apocalypse, la catégorie de l'Exode, ça veut dire qu'en fait, l'Exode, où le peuple d'Israël a été délivré par Dieu dans l'Ancien Testament, sert de modèle de délivrance. Et ce qu'a fait Jésus-Christ est un exode spirituel. Cet exode a été fait à la croix, il continue à cette époque, à travers le témoignage de l'Église, et il sera fini à la fin. Pareil pour le témoignage, il y a eu le témoignage de Jésus, le témoignage qui continue maintenant, et à la fin, il y aura... Alors, ces différentes choses se recoupent à... On va dire que le salut est vu en trois étapes dans l'Apocalypse. Ce que Jésus-Christ a fait, la victoire de Jésus-Christ acquise à la croix, la victoire de l'agneau de ses fidèles qui se continue dans le présent et la victoire finale à son retour. Et c'est un peu décliné, hein, je l'avais marqué ça, c'est un petit peu décliné en trois thèmes. Celui du témoignage, ouais, celui du nouvel exode, l'exode final jusqu'à la fin. Et l'autre thème, c'est celui de la guerre messianique entre l'agneau et le dragon et ses représentants. Ça va être un peu les trois thèmes qui vont traverser sur ces trois étapes de la victoire. La victoire passée de Jésus-Christ initiale, qui permet les autres, la victoire dans le présent, jusqu'à la victoire finale à son retour. Ça va un petit peu traverser.
La première étape, tu as dit ce que Jésus a fait.
Oui.
Deuxième étape.
Ce qui se passe dans le présent, c'est-à-dire son œuvre qui est continuée par l'Église, le témoignage des fidèles de l'agneau, et puis à la fin, la victoire finale parachevée par sa deuxième venue, son avènement, son retour. Donc là, tout ce qu'on vient de lire, on voit que ce n'est pas une vision futuriste, même si on va jusqu'à la fin des temps, après on verra dans Apocalypse 21-22, mais des bénédictions accomplies et inaugurées. Ça a commencé, hein. Il nous a délivrés de ses péchés par son sacrifice, vous vous rappelez. Hein. Je vous dis juste un petit truc par rapport à l'Exode. C'est le verset de Michée 7, verset 19. Après, on y viendra plus sur l'Exode. Enfin, on y reviendra, mais là, je sors de l'Apocalypse. Michée 7, 19, en gros, il dit que... il parle d'un Exode tout au long de ce passage. Il dit que nos péchés ont été enfouis dans la mer. Vous vous rappelez de ce passage? Comme par hasard, il est en train de parler d'une sorte de nouvel Exode. Qui a été enfoui dans la mer? Dans l'Exode, les ennemis de Dieu, les ennemis du peuple d'Israël, les Égyptiens ont été enfouis dans la mer. Et là, il prend cette même image d'être enfoui dans la mer en parlant de nos péchés. Pour vous montrer que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est comprise comme un exode par beaucoup d'écrivains bibliques. Bon, retour à Jean, le serviteur, le prophète. Donc, il connaît assez les églises pour ne pas avoir besoin de se présenter. L'histoire de l'Église nous dit que l'apôtre Jean a vécu à Éphèse dans la deuxième partie de son ministère. Et les pères de l'Église, dans leur immense majorité, pensent que c'est l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse. On n'ira pas chercher plus loin. Hein. Voilà. Il y a les théologiens libéraux qui vont chercher à droite, à gauche. Même quand Paul dit que c'est Paul qui a écrit, ils n'y croient pas. Donc, on ne va pas se compliquer la tête plus que ça. Et puis, il y a des termes qui se retrouvent dans l'Évangile de Jean qu'on ne retrouve que dans l'Apocalypse. Jésus comme parole de Dieu, c'est que dans l'Apocalypse, c'est que dans Jean. L'insistance sur l'agneau de Dieu, enfin, il y a vraiment des points communs. Cette lettre prophétique, donc cette prophétie apocalyptique sous forme de lettre, s'adressait donc d'abord à cette église hein, en particulier. Et donc, ça veut dire que ça devait leur parler dans leur situation particulière. Ça, c'est important. Hein ? Je veux dire, il ne faut pas croire que l'Apocalypse a été écrit que pour la fin des temps et que ça voulait rien dire pour les gens qui allaient le lire. Sinon, ça n'a pas de sens, quoi. Ils ont reçu une lettre. En même temps que je dis, il n'est pas innocent que Jean ait choisi que cette église. Il y en avait d'autres, comme je vous ai dit, et que ça symbolisait l'église dans sa plénitude, dans sa totalité. Par exemple, pour revenir aux lettres, quand on a étudié 1 Corinthiens l'année dernière, Norbert nous a expliqué qu'il était important de connaître le contexte dans lequel cette lettre a été écrite et ce que Paul avait voulu dire aux Corinthiens avant de pouvoir en faire une application à la situation. Mais c'est un petit peu pareil, là. Le message de Nassé, cette église, continue à parler aux églises sur toute la terre et à toutes les époques. En même temps, c'est intéressant de connaître le contexte. Alors, le message général, c'est celui de la victoire de l'agneau. En Apocalypse 17, 14, il est dit « Ils feront la guerre à l'agneau, mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui sont fidèles, vaincront avec lui. » L'ordre, c'est appelé, élu. Et parce qu'on est appelé élu, on va être fidèle et vaincre avec lui. Hein ? C'est pas dans l'autre sens. Un autre aspect important de l'Apocalypse. Attendez, je ne sais pas, je peux oublier quelque chose. Si, peut-être. Dans ces églises, dont je vous dis, ça s'adresse d'abord à cette église, à l'église universelle. Alors, ces églises étaient composées de juifs et de non-juifs. Et il y a donc des références au monde païen d'alors, pratiquant surtout à l'Empire romain, et encore plus aux écrits de l'Ancien Testament. L'Apocalypse est saturé d'Ancien Testament. Mais Jean ne va jamais citer l'Ancien Testament. Paul ou d'autres disent, les Écritures disent... Jésus, dans les évangiles, dit, comme Moïse disait dans les Écritures, l'Apocalypse, Jean ne dit jamais, il n'arrête pas de faire référence à l'Ancien Testament. Donc, si vous lisez l'Apocalypse, que vous avez une bible d'études avec des annotations pour les références, c'est très utile. Et en fait, même, il le cite, il le réinterprète. Comme faisaient les prophètes de l'Ancien Testament. Si on voit la chronologie des prophètes, il y a certains prophètes qui vont, par exemple, Jonas reprend des paroles de, je ne me rappelle plus, quand il dit que Dieu est un Dieu lent à la compassion. Voilà, il reprend des paroles d'un autre prophète avant, où Israël avait été en infidélité, et le prophète lui rappelait que Dieu est un Dieu riche en compassion et lent à la colère, et ce même verset est recité dans Jonas, mais sans dire que ça avait, d'une manière... comme ça avait été cité dans le prophète précédent. Les prophètes prennent le matériel des prophètes qui les précèdent et ils continuent parce qu'ils sont dans la même lignée prophétique. Et Jean, en tant que prophète de la Nouvelle Alliance, prophète ultime, il réinterprète tout un petit peu à travers l'œuvre de Jésus-Christ qui a tout accompli. Et il n'arrête pas de piocher dans le matériel biblique. C'est incroyable. Donc ces églises, voilà, je vous ai dit, étaient composées de juifs et de non-juifs. Et la plupart des commentateurs actuels pense que cette prophétie a été écrite sous Domitien, vers 95-96 après Jésus-Christ, là où le culte impérial commençait à devenir de plus en plus important et où une persécution arrivait dans tout le monde romain. C'est ce que pensent la plupart des commentateurs et c'est la position qui m'a le plus convaincu aussi. Il y en a qui pensent que c'est à la fin des années 60, mais la plupart maintenant pensent ça. Et en Apocalypse 17-9, il nous est parlé de la prostituée qui est comme sur sept collines. La plupart des commentateurs ont vu les sept collines de Rome et ont identifié Babylone, la grande prostituée, à Rome. Donc c'est le système impérial qui est visé et qui va être toujours mis. On va avoir l'adoration de l'agneau versus l'adoration de la bête du pouvoir impérial mis par la propagande de la deuxième bête. Et puis avec Babylone au milieu qui est Rome, enfin, les rois de la terre... Tout ce qui sont... au début, ça part du dragon contre l'agneau. À qui va l'adoration? C'est un petit peu un des thèmes principaux de l'Apocalypse, c'est à qui va l'adoration? Au vrai Dieu ou à l'idolâtrie? Et c'est pour ça que ça nous parle toujours. C'est pour ça que c'est éternel. Hein. Dans ces églises, cette église vivent différentes situations de persécution, de séduction. On va voir plus tard dans les sept oracles, pas seulement de persécution. Il y a un appel à la fidélité tout au long de l'Apocalypse, à la suite de Jésus le témoin, qui a été fidèle jusqu'à la mort. Et la victoire est liée à cette fidélité. Le mot « martyr » vient de l'Apocalypse. Ça veut tout simplement dire « témoin ». Et ça a tellement marqué dans l'Apocalypse que le témoignage pouvait être, il n'était pas obligatoirement jusqu'à la mort, mais pouvait être un témoignage qui allait entraîner la mort, que le mot « martyr », qui était juste « témoin », a pris cette connotation de mort. En passant, le martyr, c'était celui qui subissait le martyr. C'était pas quelqu'un qui allait se tuer pour faire des dégâts comme on voit maintenant. C'était pas un terroriste. Ça, c'est, ils ont complètement les gens qui parlent de martyrs pour des terroristes, ils ont complètement tordu le vocabulaire. C'est faux ce qu'ils disaient. C'est pas des martyrs. Hein. Ils ne faisaient de mal à personne, au contraire. Et eux, ils étaient fidèles à leur Seigneur. Et ça pouvait aller jusqu'au martyr sanglant. Voilà. Un autre aspect important de l'Apocalypse, c'est son langage symbolique. Par exemple, on va voir plus tard, il y a, pour parler de la royauté, de la force, de la victoire du Messie, on va parler du lion de Juda. Pour parler de son, du fait que ce soit sacrifié, qu'il a ôté le péché du monde, on parle de l'agneau immolé. Et les deux ensemble, le lion de Juda et l'agneau qui sont sur le trône, les deux ensemble vont donner un symbole de Jésus. Hein. À la fois le lion et l'agneau. Le diable, il est à la fois le dragon et le serpent. C'est un mélange, le dragon... Et le serpent ancien et puis le dragon. C'est à la fois un mélange de fureur, de puissance, de méchanceté, c'est le dragon, et à la fois de séduction et de ruse. C'est les deux facettes du diable qui sont à un moment mélangées ensemble. Et le symbole est utilisé par Jean à une époque où l'imagerie de l'Empire romain est très forte. Ben, on n'a qu'à regarder encore à Nîmes. Si on va à Rome, il paraît que c'est encore plus impressionnant. Il y a des sacrés monuments, quoi. Il y a des cérémonies impressionnantes dans les temples païens de l'Empire. Il y a des monuments énormes, des grosses festivités. Y a pas, l'année dernière, Pascal en témoignait à un culte. Moi, je me suis retrouvé aussi avec Gabriel et Magali au jeu du cirque. Et au début, il demande aux gens de se lever, de saluer César et de faire une prière à César. Alors, on risquait rien si on ne le faisait pas. Hein. C'était un jeu de rôle. Ils ont bien dit à la fin, ils ont fait relever les gens qui étaient morts pour ne pas faire peur aux enfants. Regardez, c'est les acteurs, tout ça. Mais même si c'était qu'un jeu de rôle, moi, je ne me suis pas levé parce que dans ma conscience, même si je savais que c'était un jeu de rôle, ça m'a fait drôle, ça m'a gêné. Donc je ne me suis pas levé parce qu'on ne risquait rien là. C'est juste que j'avais pas mis de me lever pour participer à ce truc, même si le spectacle était chouette par ailleurs. Donc c'était vraiment... Il y avait une très forte... le culte impérial était vraiment très très fort et vraiment... c'était de partout, quoi. Ça imprégnait la société. Et en plus, il y avait le culte impérial, il fallait reconnaître que César était seigneur. Et puis Rome a eu la force, la ruse de ne pas imposer son culte. C'était pas exclusif, le culte romain. C'est-à-dire que Rome a permis... Il y avait une sorte de multiculturalisme. Rome a permis à chaque peuple de garder ses idoles et d'avoir chacun... Il était même encouragé à avoir son petit culte avec toutes les idoles et tous les dieux étaient réunis là-dedans. Juste, il fallait que par-dessus, on dise que César était seigneur. À la rigueur, les chrétiens auraient adoré Jésus et auraient dit en plus César est seigneur. C'est impossible, parce que Jésus est seigneur. Et c'est pas pour rien que Jésus est seigneur dans le Nouveau Testament. On pense, la plupart des, et c'est logique, des spécialistes du Nouveau Testament pensent que le mot « Jésus est Seigneur » a été employé à dessein par les auteurs du Nouveau Testament volontairement comme une déclaration de guerre à l'Empire romain. Non, le vrai Seigneur, c'est Jésus, c'est pas César. Et donc, s'ils avaient dit « César est Seigneur », ça passait. Et on verra tout à l'heure, je lirai peut-être le martyr de Polycarpe, évêque de Smyrne, je crois vers 155, qui a été menacé des bêtes, qui n'a pas eu peur, et puis qui, à la fin, a été brûlé, parce qu'il n'a pas voulu juste... Il demandait juste de dire, Jésus, César est Seigneur, il aurait laissé tranquille. Il n'a pas voulu. Et bon, pour revenir au symbole, des fois, une image parle bien plus que des mots. Si, par exemple, je vous cite des versets, des psaumes, « L'Éternel est mon rocher. L'Éternel est ma tour forte. » Il n'y a pas d'explication de qui... On comprend ce que ça veut dire. Ça nous parle. Le rocher, quelque chose d'inébranlable, quelque chose qu'on peut s'accrocher, les tempêtes. Il y a plein d'images qui nous viennent, la tour forte. Voilà la force du symbole, un petit peu. Les chiffres sont aussi symboliques. Hein. Alors, celui qui va revenir le plus, c'est 7, celui de la plénitude, de la totalité, de la perfection. Des fois, il y a des multiples de 7 aussi, des 14, des 28, tout ça. Il y a 4, il y a celui de la terre. Quand on parle de 4, souvent, à un moment, souvent on parle de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Il y a les 4 êtres vivants, il y a les 4 vents, enfin, il y a souvent des choses comme ça. 6, c'est celui de l'homme, qui va donner le fameux 666, hein, après. 12, celui du peuple de Dieu. On va voir les 12 apôtres, les 12 tribus. Souvent, le mot 12, quand on parle 12, souvent, ça parle du peuple de Dieu. Et 12 fois 12, ça fait 144 fois 1000, ça fait 144 000, le peuple de Dieu dans sa totalité. Alors, dans le chiffre 7, on a vu, est celui qui structure le plus l'Apocalypse. On a les 7 esprits, les 7 chandeliers, les 7 étoiles, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 7 tonnerres. Il apparaît 54 fois distinctement, plus plein d'allusions indirectes. 7 fois Jésus dit « je viens ». Oui, 7 fois Jésus dit « je viens ». Il y a 7 fois le mot « prophétie », il y a celui qui est, qui était, qui vient, c'est cité sept fois. Celui qui siège sur le trône, c'est cité sept fois. Il y a les sept béatitudes. Heureux celui qui donne lecture des paroles de ce livre, car le temps est proche. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Heureux celui qui se tient éveillé. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements. Heureux les invités au festival, au festin des noces de l'agneau. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de prise sur eux. Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui garde la parole prophétique de ce livre. Les paroles prophétiques de ce livre. Et à la fin, le tout dernier, heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit dans l'arbre de vie. Droit qu'on avait perdu depuis la chute. Donc même le dernier, il y est, mais on dirait que Jean, je crois que c'est pas, on dirait, a volontairement rajouté ce dernier. On voit que Jean, quand on creuse un peu, et j'ai pas eu le temps d'assez creuser à mon goût, Jean est un génie littéraire. Oui, c'est inspiré par le Seigneur, mais il y a un travail de rédaction formidable. L'un n'est pas contre l'autre. Hein. Dans l'Apocalypse, on a un point de vue céleste sur ce qui compte réellement. La première mort, notre mort physique, n'est pas ce qui est important. Elle entraîne même un bonheur pour ceux qui meurent en Jésus. La première résurrection est ce qui compte, hein, c'est-à-dire la nouvelle naissance, la régénération. Elle évitera la deuxième mort, qui est l'étang de feu, le jugement définitif de Dieu. Il y a un appel à l'éveil, à la fidélité, car Jésus vient bientôt. Le temps est proche. Depuis la mort de Jésus, depuis sa résurrection, on est dans les derniers temps, hein, dans les Écritures. Les derniers temps, ce n'est pas au tout dernier moment. Après, il y a la fin des derniers temps, peut-être. Mais on est plus proche qu'au début de son retour. Mais on vit dans les derniers temps, dans le sens qu'il n'y aura plus de révélations nouvelles jusqu'à son retour. On n'est pas comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament qui attendait le Messie. Il est venu. Alors, il y a à la fois des bénédictions positives. On a vu dans tous ces heureux-là, hein, de repos, arbre de vie. Et aussi... un appel à l'éveil pour ne pas subir le jugement, qui est la conséquence, ne pas subir le jugement. Hein. À la fois, les bénédictions positives et éviter les jugements sont les conséquences de la mise en pratique de ces béatitudes. Hein. Alors, on va revenir à la lecture de l'Apocalypse. On va lire à la fin du chapitre 1. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait « Inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces sept églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. » Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait sept chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or qui entourait sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, et ses pieds étincelés comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va arriver ensuite. » Mais d'abord, voici quel est le secret des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers les sept églises. Donc, un personnage se tient au milieu des sept chandeliers. On apprend que ce sont les églises. Il a une tenue de grand prêtre et emprunte des éléments de Dieu et du Fils de l'homme à qui est remis toute autorité dans Daniel 7 et 10. C'est un mélange. En fait, cette vision se comprend si on retourne. Vous pouvez noter les chapitres 7 et 10 de Daniel, c'est un mélange de ces deux. Il ressemblait à un homme, les cheveux comme la neige, comme une flamme ardente, comme du bronze. On voit qu'il y a beaucoup des comme, il ressemble, il y a des difficultés à décrire vraiment qui il est. C'est dans le symbole. Ensuite, il y a sept oracles, sept prophéties adressées à chacune des églises qui vont suivre. Hein, quelques traits... Là, c'est dans le chapitre 2 et 3. Alors, les chapitres, ça se découpe, hein, mais c'est des techniques d'édition, hein, c'est des principes d'édition. Mais en vrai, il n'y avait pas de chapitres. Hein. Donc, ça aide à se repérer. Mais les chapitres 2 et 3 forment un bloc et ça même, ça suit. Parce que au début de la... Alors, on parle souvent des lettres aux sept églises. C'est un peu trompeur. Ce sont d'abord des oracles prophétiques, parce que ça demande une réponse, soit continuer dans la fidélité, soit se repentir. Mais ce n'est pas des lettres en tant que telles. Et c'est toute l'Apocalypse qui est écrit aux sept églises. Et donc, ce que veut dire, c'est que les lettres des sept églises doivent être lues en rapport avec ce qu'on vient de lire maintenant. D'ailleurs, tout ce qui a été dit de Jésus, là, chaque fois, il va prendre un de ces éléments pour le dire aux sept églises. Et les sept églises vont lire toute l'Apocalypse, les messages pour tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y en a même qui ont dit que chaque oracle des églises pouvait donner une lecture, des lectures multiples de l'Apocalypse. Ça pouvait être intéressant à prendre comme ça aussi. Alors, quelques traits essentiels de ces sept oracles. Elles commencent toutes par l'ange de l'église d'Éphèse écrit, voici ce que dit celui qui, voilà. Et un trait de Jésus est décrit, hein. Et c'est Jésus qui parlait. Cet oracle est donc du Seigneur, qui s'adresse directement aux églises par l'intermédiaire de ces oracles écrits par Jean. Et chaque fois, un trait de sa personne est mis en avant. Puis le Seigneur dit, je connais ou je sais, chaque fois. Okay, en fait, c'est le Seigneur qui est au milieu des chandeliers. Il connaît ses églises. C'est celui qui les aime, qui les a délivrés, qui est en train de leur parler. Il les connaît. Il tient les étoiles dans sa main droite. Il les tient, ça veut dire la main droite, c'est à la fois la protection et la volonté. Il y a tout ça. Hein. Ensuite, il y a souvent un encouragement en premier, sauf pour Sardes. On ne va pas tout lire. Hein. Sardes, c'est la 1, 2, 3, 4, la cinquième, qui dit l'ange de l'église de Sardes écrit, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu, les sept étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant. Donc là, ça ne commence pas par un encouragement. Et ainsi qu'à Laodicée, ou à Laodicée, la dernière église, il n'y a rien de positif de souligner, mais un appel à la repentance lancé par le Seigneur. Et après, un appel à la repentance, voilà pour ça, pour Laodicée. Donc pour Sardes, il y a un reproche, puis une exhortation pour ceux qui restent vivants dans l'église, et un appel à la repentance pour ceux qui ne vont pas dans l'église. Pour Smyrne et Philadelphie, qui sont trouvés fidèles, il n'encourt donc évidemment aucun reproche, mais seulement des louanges et des exhortations à persévérer dans la fidélité. Et chaque message de ces sept oracles se conclut par les mêmes formules. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et ça, c'est un rappel de ce que Jésus disait dans les évangiles. Et c'est une antithèse de l'esprit d'idolâtrie. Pourquoi? Parce que les idoles ont des oreilles mais n'entendent pas. Et ceux qui adorent des idoles, dans le psaume 115, c'est très intéressant, on ne va pas le lire là peut-être, mais ah, je vais le lire, tant pis. On fera ce qu'on peut faire, hein, mais parce qu'il y a quelque chose de très intéressant sur l'idolâtrie, et comme l'Apocalypse parle de l'idolâtrie, c'est le psaume 115, et ne pensez pas que l'idolâtrie, c'est que des statues en bois ou en or, hein. C'est tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Hein. Psaume 115, versets 5 à 8. Il parle des idoles. Elles ont une bouche, mais ne peuvent parler. Elles ont bien des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais qui n'entendent rien. Elles ont des narines, mais qui ne sentent rien. Elles ont bien des mains, mais ne peuvent toucher. Elles ont des pieds, mais ne peuvent marcher. De leur gorge, jamais aucun son ne s'échappe. Il leur ressemble tout ce qui les fabrique et tout ce qui leur fait confiance. Tout ce qui leur font confiance. Donc, on voit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux oreilles. C'est un rappel de ce que l'Esprit dit aux églises. C'est un rappel de ce que Jésus dit aux évangiles. C'est aussi une antithèse de l'esprit des idolâtries. Hein. Voilà. La fidélité au vrai Dieu, à Jésus-Christ, détourne l'idolâtrie. Et inversement, l'idolâtrie va nous éloigner du Seigneur. Et puis après, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, il y a une promesse au vainqueur. Au vainqueur, une promesse est faite qui est un aspect du salut. Alors, dans les trois premières églises, c'est d'abord que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, et puis au vainqueur, je. Et dans les quatre autres, c'est l'inverse. Alors, je ne sais pas trop, je n'ai pas creusé pour savoir pourquoi c'était comme ça, mais voilà, mais c'est à peu près pareil sinon. Hein.
Est-ce que je peux poser une question?
Oui.
Les anges des églises.
Ah ah. Ben alors, certains disent que ça pourrait être des représentants angéliques, vraiment. D'autres pensent que ce sont des pasteurs. Mais donc, il crierait au pasteur, mais qui en même temps, le lecteur le lit à toute l'assemblée, donc ça peut paraître étrange. D'autres, ils voient que ce serait comme les représentants symboliques des églises. Je sais pas, j'ai du mal à savoir exactement.
On ne peut pas dire aujourd'hui, on a un ange.
Je ne peux pas te répondre sûrement, ça m'a un peu laissé aussi. Il donne l'explication en disant les sept étoiles, ce sont les sept anges, mais une fois qu'il a dit ça, qu'est-ce que c'est que les anges exactement? C'est dur parce qu'ange, ça veut dire envoyé. Alors certains ont dit ça pourrait être les responsables d'église. En même temps, le lecteur semble le lire à toute l'assemblée. Donc, je sais, j'avoue que j'ai retenu que Jésus s'adressait aux églises. Mais après, je n'ai pas trouvé le détail. Donc c'est un mélange de particularités à chaque église, mais un message qui est profitable à tous parce que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est pour eux cet oracle, mais c'est aussi pour toutes les églises de tout temps et de toute époque. Hein. Et autre chose intéressante, on a le regard du Seigneur sur les églises, qui est celui qui va finalement compter son regard, hein, ce n'est pas le nôtre, hein, au-delà des apparences. Et là, il y a des choses vraiment intéressantes. C'est qu'on se rend compte qu'entre notre perception, la perception des autres autour de nous et celle du Seigneur, il y a des fois des décalages. Par exemple, Smyrne. Smyrne, c'est la deuxième église. Elle est pauvre, en détresse. Je connais ta détresse et ta pauvreté. Donc, ils doivent être pauvres. Peut-être qu'ils souffrent économiquement. Peut-être que la persécution entraîne des souffrances économiques. C'est souvent le cas. Hein. Et ta pauvreté, pourtant, tu es riche. Donc, le point de vue du Seigneur est différent. Hein. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, bon, voilà. Tu es riche. Donc, elle est calomniée. Mais le Seigneur connaît la vérité et connaît sa fidélité. OK ? Et à la fin, le verset 10, c'est assez... Il est incroyable. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter. Et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Ça veut dire que c'est limité, c'est symbolique. Hein. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme prix de la victoire. Je trouve ce verset assez incroyable. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie. Tout est inversé. Ce n'est pas la mort le plus important. Je ne dis pas que c'est rien. Hein. Ça fait de la peine et tout. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Et je te donnerai la vie. On voit que la mort est vraiment engloutie par la vie que promet le Seigneur. Quoi, hein. À l'inverse, Sardes, c'est la cinquième, je crois. Ouais, la cinquième. Sardes, voilà. Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivante, mais tu es mort. Deviens vigilant, affirmé. Après, on voit qu'il y a un reste qui est vivant, mais elle passe pour être vivante. Donc, elle a une réputation d'être vivante, mais elle est morte, du moins en grande partie. Donc, le regard du Seigneur est autre, ok. À Philadelphie, le Seigneur va retourner les menteurs et leur faire reconnaître que cette église est aimée du Seigneur. À un moment, il dit, ceux qui sont contre toi, qui sont une synagogue de Satan, je les ferai venir se prosterner devant toi. En fait, ces gens-là vont reconnaître que oui, ils sont le vrai peuple de Dieu, ils font partie du peuple de Dieu en suivant l'agneau, et ceux qui étaient contre vont venir à lui. Et ça, c'est le Seigneur qui va ouvrir la porte. Il n'y aura rien à faire. Hein. L'Odyssée, c'est vraiment rigolo. Rigolo. Je connais ta conduite, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, seulement si tu étais froid ou bouillant. Tu dis, voilà, verset 17, 3:17, tu dis, c'est ce que pense la Odyssée d'elle-même, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Pense avoir besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Donc je pense que là, elle peut s'en rendre compte maintenant, l'Église, mais ça a dû être dur. Mais... Donc l'Église se pense riche, oui. Je pense que... ça me fait pas... Ouais, on va revenir à l'Évangile, quand Jésus dit aux Juifs qui ne veulent pas le reconnaître comme le Messie, et si vous me suivez, vous devrez réellement libre. Comment nous sommes esclaves de personne, nous sommes enfants d'Abraham. Il dit, vous êtes enfants d'Abraham. Abraham a vu mon jour et s'est réjoui. Vous parlez comme votre père, le diable, vous êtes des menteurs. C'est une synagogue de Satan. En gros, depuis la venue de Jésus, le fait d'être juif ne conduit pas au salut. Je pense qu'il n'a jamais conduit au salut. Déjà, dans l'Ancien Testament, il fallait croire. Tu pouvais faire partie du peuple juif de manière charnelle, mais ne pas mettre ta foi dans le Dieu d'Israël. On le voit du temps d'Élie, hein, où il y a des 7000 qui n'ont pas plié le genou et d'autres non. Et là, c'est la même chose. Ce sont peut-être des gens qui vivent dans la synagogue. L'Église est composée de juifs et de non-juifs. Et il y a peut-être des juifs qui, il y a des juifs qui ont accepté le Seigneur. Et eux ne reconnaissent pas ça, en disant « vous vous trompez ». Et en gros, le prophète est en train de leur dire « non, non, c'est eux qui se trompent ». Ils sont en train de, ils n'ont pas accepté le Seigneur. Eh bien, ils ne feront pas partie du peuple éternel de Dieu. Quoi. C'est ça. Hein. Peut-être, ouais.
Qui se prétendent juifs sans l'être.
Ouais, ça dépend. Voilà, voilà. Il y a plusieurs interprétations. Voilà. Après, voilà, un petit peu. Donc, Laodicée, ce qui est intéressant aussi, bon, le Seigneur n'a que des reproches à lui faire, mais va lui lancer un appel à la repentance motivé par son amour. Ouais, c'est quand même intéressant ce que dit. Parce qu'on reconnaît que Laodicée n'est plus une église qui représente le Seigneur. D'ailleurs, tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Dans les évangiles, dans la Bible, il n'y a pas d'exhortation à devenir froid ou bouillant en tant que tel. C'est assez rare. Le seul parallèle qu'on pourrait faire avec ça, c'est Élie qui, à un moment, après des moments d'adoration, d'hésitation, disent « arrêtez de clocher des deux pieds ». Soit vous choisissez le Seigneur, soit vous choisissez Baal. Mais dans l'ensemble, il y a plutôt une exhortation à ceux qui se sont un petit peu assoupis, à se réveiller, à se remettre avec le Seigneur. Il n'y a pas des exhortations à être froid. Et en fait, on a des explications archéologiques très simples qui éclairent le contexte. Je dis, c'est écrit à des lettres précises. C'est que il y a Laodicée, pas loin, il y a Hiérapolis et il y a Colosse. Alors là, je me veux peut-être confondre. Il y en a une et deux. Il y en avait une et deux où il y avait des termes chaudes qui étaient reconnus, des sources chaudes qui avaient des bienfaits thérapeutiques. Donc, c'était des sources bouillantes qui soignaient les gens. Il y avait l'autre où il y avait des sources fraîches et qui alimentaient. Voilà. Et donc, il y avait une ville qui était connue pour ses. Colosse, c'est froid, voilà. Et Hiérapolis, c'est chaud. Et Laodicée, c'est tiède, ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien. Ils sont alimentés par Colosse, mais souvent, quand ça arrive jusqu'à eux, ça devient tiède. Et elle n'est pas très bonne, elle n'est pas buvable. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? En gros, une église elle a perdu tout intérêt, Laodicée. L'église de Laodicée n'a plus aucun intérêt. En tant que telle, elle n'est plus un témoin fidèle. Comme le sel qui a perdu sa saveur, ben là, elle est ni chaude pour guérir, ni froide pour désaltérer. Elle est tiède et le Seigneur va la vomir de sa bouche si ça continue. Et il y a un appel à la repentance. « Mais moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. » Il y a un appel à la repentance motivé par l'amour, mais quand même aussi, il y a à la fois un appel à la repentance motivé par l'amour et à la fois un jugement prévu si la repentance n'arrive pas. Hein. Si quelqu'un, et après un appel à la communion, « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Et après, « Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. » Il y a encore une promesse de vainqueur, même pour la Odyssée, dont le Seigneur ne la considère pas comme perdue, sinon il ne s'adresserait même plus à elle. Et on arrive, le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur mon trône, sur son trône, après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute et que l'Église ce que l'Esprit dit aux Églises. À partir de là, on finit sur le Seigneur qui allait siéger sur le trône, et on arrive au chapitre 4 et 7, où il y a la vision du trône. Ouais. Juste avant, quand même, on a vu qu'il y a de la persécution dans ces églises, pas dans toutes, hein, pas Laodicée, pas Éphèse, j'ai pas tout lu. Hein. Il y a de la tentation, de compromis spirituel avec l'idolâtrie, plus ou moins grossière. Il y a de l'endormissement spirituel, il y a l'échange de la vie que propose le Seigneur contre le confort et la richesse du monde. Ça nous parle quand même tout ça à notre époque, hein, où le confort est une valeur très très forte, hein, et on baigne dedans. Hein, on baigne dedans. Hein. Et un mélange de tout cela parfois, hein, alors je vous les relirai. Hein, et c'est pour ça que ça peut parler aux églises de tout lieu et de tous les temps.
Tu as dit tout à l'heure, c'est que les sept chandeliers sont dans sa main.
Sont dans sa main. Non, c'est les sept étoiles. Ils marchent au milieu des sept chandeliers.
Les sept étoiles dans ma main droite et les sept chandeliers d'or sont dans sa main.
Ah. Il marche au milieu des chandeliers. Attends, je vais relire. Non, ils ne sont pas dans. Je pense pas. Hein. Ouais.
C'est vrai, on dirait que tout est dans sa
je crois pas. Quelles seraient les sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or? Et il est parmi les sept chandeliers. Il est au milieu des sept chandeliers. Voilà, au verset 12. Et il y a le « et » au milieu qui fait qu'il est au milieu des chandeliers et dans sa main droite, il a les sept étoiles. Non, c'est pour ça qu'il avertit, mais il y a une récompense. En même temps, il y a quand même. Voilà, il ne faut pas écarter toute idée de jugement. Voilà, il y a quand même. L'amour du Seigneur est un amour jaloux. Et si on prend l'image de la jalousie, l'idolâtrie est considérée comme l'adultère, et l'image de la jalousie et de l'adultère est présente dans la Bible, et en gros, quelqu'un qui aime d'un couple humain, s'il se moque de la tromperie ou de l'adultère de son conjoint, est-ce qu'il aime vraiment ? Et il est normal que le Seigneur soit jaloux, et il est normal qu'en tant que créateur, ça on va le voir, en tant que créateur juste et saint, il réclame l'adoration juste de ses créatures parce qu'elles lui doivent l'existence. Et encore plus que là, à la création se rajoute la recréation, la rédemption de l'Église. Donc oui, il y a un appel à la repentance qui est quand même sérieux. Fait par amour, parce qu'il aime, mais il y a un appel sérieux à la repentance. Alors, voilà. Alors, le chapitre 4 et 5. Alors, c'est une seule scène. Alors, je souffle, il est super ce chapitre. Ces deux chapitres sont incroyables. Et je ne sais pas si on les lit. Ouais. Bon, de toute façon, je ne ferai pas tout ce que je voulais faire. Hein. Mais qu'est-ce que je les lis en continu, puis vous continuerez. Je ne sais pas. Ou je ne les lis pas, mais. Bon, je ne les lis pas. Alors, en gros. Pour ceux qui les liront après, les chapitres 4 et 5 qui ne les ont pas lus, si vous ne les avez pas lus, si vous voulez les relire, ça s'appuie beaucoup sur Ésaïe 6 et sur Ézéchiel 1 et 2. Ouais, il n'arrête pas, je viens de prendre des références de l'Ancien Testament. Hein. On voit un trône dans le ciel, symbole du pouvoir et de l'autorité royale, de la souveraineté. On a celui qui siège, Dieu n'est pas décrit en tant que tel. Mais son aspect glorieux, c'est conforme au monothéisme de l'Ancien Testament. Hein. On ne doit pas faire d'image taillée de Dieu. Et là, Dieu, en fait, il ne nous parle que du trône, il ne nous parle presque pas de Dieu. En tant que tel, il nous en parle sans nous en parler. Quoi. C'est très fin. On ne fait pas d'image de Dieu. C'est l'antithèse de l'idolâtrie. Hein. Et au verset 4, verset 5, du trône jaillissait des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Ce sont des manifestations classiques de la présence de Dieu. Et elles sortent du trône. Ça fait référence aux manifestations qu'avait Dieu dans l'Exode, dans le chapitre 19, au mont Sinaï. Hein. La sainteté de Dieu, ce qui fait que lui seul est digne d'adoration, est fortement souligné au verset 8. Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Dans ce verset, il y a tout là. Enfin, il y a trois trucs importants. La sainteté, l'autorité de Dieu et celui qui est, qui était et qui vient, son éternité. Si on découpe un chapitre, là, même s'il n'y avait pas de chapitre, c'est quand même pas mal fait la découpe, parce que le chapitre 4 va mettre l'accent sur le Dieu créateur et le chapitre 5 sur le rédempteur. Et rappelez-vous que c'est parce qu'il a créé sa création qu'il peut la racheter. Ça veut dire qu'il a été fidèle à sa création et qu'il a recréé. Hein Alors, il y a plusieurs noms donnés à Dieu dans tout au long de ce chapitre. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui vient, celui qui siège sur le trône, celui qui vit éternellement. Alors, celui-là, ça m'a beaucoup touché, celui qui vit éternellement. Verset 9. Chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, je n'ai pas décrit, il y a le trône, autour il y a les êtres vivants, là, il y a les 24 vieillards. Bon, le 24, ça symbolise le peuple de Dieu en complet, on pense, c'est 12 et 12. Voilà. Et chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage, les êtres vivants, ils viennent d'Ézéchiel et d'Ésaïe aussi. C'est un mélange d'Ézéchiel et d'Ésaïe, c'est deux visions là où il y a des séraphins et des chérubins. Chaque fois que les êtres vivants présentent leur hommage, leur adoration et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône. Le mot trône est employé 17 fois dans ces deux chapitres. Donc, c'est l'endroit où il y a la puissance, où Dieu règne. À celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement. Les 24 vierges se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » C'est pour ça que le Seigneur est une des caractéristiques de la dignité de l'adoration au Seigneur, c'est sa création. Les deux actes principaux de Dieu dans toute la Bible, c'est sa création et sa rédemption. C'est les deux faits principaux de Dieu qui fait qu'on adore Dieu. Plus tard, à la chapitre d'après, Dieu sera digne d'être loué parce qu'il a racheté, l'agneau a racheté. Donc tout ce qui a été créé doit sa création et son existence à Dieu. Hein ? Et en contraste de tout ce qui doit sa création et son existence à Dieu, il y a celui qui vit éternellement, qui a la vie en lui-même. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est EST. Ce que la bête et les animaux ne seront jamais plus tard. Quand on parle du dragon ou de la bête, souvent le présent est évité. La bête qui était, qui n'est plus et qui va revenir de l'abîme. Pareil pour le dragon. Il n'y a pas le présent éternel de Dieu, parce qu'ils sont passagers. Donc, première raison d'adoration, Dieu le Créateur. Il est le seul qui vit éternellement, le seul Créateur. Hein. Tout ce qui n'est pas lui est sa création. Et lui, il y a une différence. On parle ça de la transcendance de Dieu. Il y a Dieu et le reste. Tout ce qui n'est pas lui est sa création. Il y doit la vie et l'adoration. C'est pour cela que l'idolâtrie est si sévèrement jugée dans la Bible. Elle donne gloire à la créature, à la création, plutôt que donner gloire à celui qui vit éternellement. Et c'est parce qu'il est le créateur qui peut être le rédempteur, le recréateur. Oui, voilà. Donc celui qui siège sur le trône, on l'a vu, il y a 7 occurrences dans tout l'Apocalypse. Dieu le Créateur est aussi le Dieu souverain, rien ne se passe sans sa volonté, il règne. Un Dieu saint aussi, on l'a vu. Donc le fait qu'il soit un Dieu saint, parce que je ne pense pas qu'on pourra lire tout l'Apocalypse, c'est sûr, ça anticipe le fait qu'il va avoir des jugements plus tard. Dieu ne peut pas tolérer le mal et va le juger. C'est une chose juste. Pour nous, des fois, on a du mal avec la colère de Dieu et la sainteté de Dieu et la justice. À notre époque, on voudrait un Dieu toujours gentil, un peu Père Noël, avec une barbe. Mais la colère de Dieu, ce n'est pas notre colère. Dieu ne perd pas contrôle de lui-même quand il se met en colère. C'est la juste manifestation, c'est la juste réaction par rapport au mal. C'est ça, la colère. Et si on partait un peu notre expérience à nous, c'est toujours dangereux de faire ça par rapport à Dieu. Mais quand on entend parler de quelque chose qui nous choque, vous entendez un fait divers choquant avec un enfant qui a été martyrisé, vous entendez un récit, vous voyez un reportage sur l'Holocauste, comment les Juifs ont été traités, vous voyez quelque chose d'horrible. Qu'est-ce que ça va faire en vous? Ça va faire un haut de cœur et ça va vous mettre en presque. Vous entendez un fait divers horrible, ça vous met en colère. C'est la juste réaction face au mal. C'est la même chose pour Dieu, mais de manière parfaite et sainte. Quand Jésus, dans les évangiles, se met en colère, parce qu'il a le cœur indigné quand il voit la dureté de certains qui refusent une guérison parce que c'est le sabbat, ou quand il voit que des gens viennent adorer au temple et qui sont exploités par des gens qui se comportent comme des voleurs en vendant des choses à la cour du temple, à un moment, le Seigneur se met en colère, et une colère juste et sainte, et il ne pêche pas. Donc c'est la juste colère de Dieu, et là, la sainteté de Dieu nous prépare au fait qu'il va avoir un jugement sur le mal, et le royaume de Dieu va être établi à la fin. Bon, revenons à notre vision du trône. À la fin du chapitre 4, Dieu adoré bon, comme créateur. Et au début du chapitre 5, celui qui siège sur le trône a un livre, un rouleau scellé de 7 sceaux dans sa main droite. Hein, et un appel est lancé pour trouver quelqu'un de digne. Alors, il y a eu la dignité du créateur. Mais là, on cherche quelqu'un de digne pour ouvrir ce livre. Et personne n'est digne de l'ouvrir. Il y a comme une scène un peu dramatique qui est mise en scène, là. Et puis, au verset 4, c'est Jean. « Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Alors, l'un des vierges me dit, « Ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Le lion de la tribu de Judas, ça correspond à une promesse par rapport au Messie, hein, qui remonte à Genèse 49, hein, déjà. Dans le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la racine de David. Tout ça, ce sont un petit peu des attributs guerriers. Vous vous rappelez, au début, je vous ai parlé de la guerre messianique aussi. Ben, il a remporté la victoire, c'est ce qui va le rendre digne d'ouvrir le livre. Et alors, je vis, donc, il entend parler, il entend une voix, il entend un lion de Judas et le rejeton de la racine de David. On pense qu'il va voir le lion de Judas arriver. Pas du tout. Alors, je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Donc, on entend parler d'un lion et d'un rejeton de David, et puis on voit arriver un agneau. Il y a une réinterprétation de la part de Jean de l'attente messianique. Oui, Jésus a vaincu, oui, les lions de Juda, mais la manière dont il a vaincu, c'est en allant au sacrifice de la croix. La croix, qui semblait à l'apparence la défaite de Jésus, a été sa victoire. On est du point de vue de Dieu qui est dans la réalité. Peut-être que les Romains ont cru était un rebelle de moins, encore un faux messie d'Israël. Peut-être que beaucoup de Romains ou de gens qui ont vu Jésus mourir, dans les apparences, ils semblent avoir perdu. Les disciples d'Emmaüs, ils sont là, ils sont tout tristes, ils croyaient qu'il allait changer les choses, tout ça, paf. Mais en fait, oui, il a remporté la victoire, mais celui qui a vaincu en étant mis à mort par son sacrifice. La victoire a été obtenue par le sacrifice à la croix. Et juste après, on a une première adoration de l'agneau, en Apocalypse 5, versets 9 et 10. Une deuxième adoration, au verset 12. On va les lire, les adorations de l'agneau, quand même. Donc, les quatre êtres vivants, les quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Les mêmes qui ont rendu grâce au Créateur vont rendre grâce à l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau. « Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. » Tu as fait d'eux un peuple de rois, de prêtres au service de notre Dieu et ils régneront sur la terre. De tout homme, voilà. Alors, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations, il y a les quatre, et c'est sept fois répété dans l'Apocalypse. Hein. Après, au verset 12, pareil, il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur, la gloire et la louange. Et puis, à la fin, il y a une troisième adoration, au verset 13, une adoration conjointe de l'agneau et de celui qui siège sur le trône. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Les quatre vieillards répondaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Donc, on voit que Dieu et l'agneau, c'est la Trinité, quoi. Hein. Il y a un seul Dieu et trois personnes... Dieu le Père est Dieu, Dieu le Fils est Dieu, et Dieu le Saint-Esprit est Dieu. Les deux sont liés ensemble. Au verset 6, à l'Apocalypse 6, 17, ça revient plusieurs fois, ça, en parlant de l'agneau et de celui qui siège sur le trône, il est dit le jour de leur colère, en parlant des deux. Il y a plusieurs occurrences comme ça où il y a un seul pronom pour les deux. Ça revient plusieurs fois, ça, dans l'Apocalypse, on ne va pas aller voir dans le détail. Puis au début du chapitre 6, l'agneau qui a été jugé digne commence à ouvrir les sceaux. Ouais, puis, voilà. Donc on va voir après, alors voilà, après il y a une série de 7 sceaux, de 7 trompettes et de 7 coupes, avec des interludes au milieu, soit des séries de 7. Alors, si on voit la structure, je ne crois pas qu'il faille les prendre chronologiquement, parce que les structures se répètent. En fait, il y a 4 sceaux. Puis après le cinquième et le sixième sceau sont plus détaillés. Il y a comme un gros interlude du chapitre 7. On voit les 144 000 et les rachetés de l'agneau. Et puis il y a le dernier sceau. Et le dernier sceau, l'ouverture du dernier sceau correspond aux 7 trompettes. Il y a le début des 7 trompettes qui commence. Il y a les 4 trompettes, première trompette, qui ressemblent un petit peu. Et puis après, il y a la cinquième et la sixième qui sont plus détaillées. Il y a encore un intermède où on va parler des deux témoins et. du petit livre, il y a à nouveau le rouleau ou le livre, ça dépend de l'action qui revient en jeu là, et puis les deux témoins, et puis paf, il va avoir la septième trompette, puis après plus tard il y aura les sept coupes qui se ressemblent beaucoup, et en fait c'est comme un petit peu les sept, ça représente la totalité, ce sont des cycles, ou des fois on parle de septenaire, des cycles du jugement de Dieu, et comment il a mené. Il faut les voir comme des cycles et pas comme une progression chronologique. Oui, c'est ça. Il y a un parallélisme. Voilà, c'est le mot. Oui, c'est exactement ça. De 7, il y a un parallélisme des cycles de jugement avec des intermèdes, avec comment va être amené le salut, évidemment. Hein, pourquoi ces jugements on voit que ces jugements sont à la main de Dieu. Par exemple, dans les 7 sceaux, alors le premier cavalier il a mené pour vaincre, le deuxième cavalier il amène à la guerre, le troisième cavalier la famine. Ces jugements peuvent être vus comme des épreuves de purification aussi. Moi, il y a l'image de l'épée, c'est l'image que prenait Jésus de la persécution. La famine, c'est souvent une persécution aussi pour les chrétiens parce qu'ils vont être économiquement persécutés. Hein. Le fait d'être chrétien va leur bloquer plein de choses. Hein. Le quatrième sceau, il résume les trois autres chevaliers avec les épées, la famine, l'épidémie, les féroces, et sur un quart de la terre. Il reçut le pouvoir de bannir aussi, par exemple au verset 4, il est dit que son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix sur la terre. On voit que quand même tout ça est dans les mains de Dieu et contrôlé par Dieu. Et on voit que un quart de la terre est touché. On arrive au cinquième sceau, il y a les martyrs, on voit aussi les martyrs qui demandent justice. Quand la nuit ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte, « Maître, saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et leur demander compte de notre mort ?» Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Donc, on voit que le martyr, dans ces deux versets que je viens de lire, le témoignage fidèle jusqu'à la mort si besoin, n'est pas quelque chose d'anormal du point de vue de Jean et du point de vue de beaucoup, si on lit l'histoire de l'Église, si vous êtes abonné à Porte Ouverte, je cite Porte Ouverte parce que c'est le plus connu en France, il y en a peut-être d'autres, hein. Moi c'est par eux que je me tiens au courant de l'Église persécutée, ils sont très connus en France. Quand on regarde dans le reste du monde, il y a souvent de la persécution. Hein. Et à la question, jusqu'à quand maître saint et véritable tarderas-tu à juger les habitants de la terre ? Question normale par rapport à la sainteté de Dieu. Comment le Dieu saint et véritable peut permettre ce qui arrive à son peuple ? C'est un petit peu ça la question qui est sous-jacente. Hein. Et en passant, les habitants de la terre, c'est opposition à ceux des cieux. Souvent, l'expression « les habitants de la terre » dans l'Apocalypse, ça parle de ceux qui ne vont pas croire. Hein ? Ils ne vont pas participer au nouveau ciel, à la nouvelle terre. C'est les habitants de la terre qui sont attachés à cette terre. Et puis... En fait, la réponse, c'est que d'abord, ils ont une tunique blanche de vainqueur. Malgré les apparences, on pense qu'ils ont perdu, ils ont été persécutés. Peut-être que leur bourreau, que le système romain s'est dit, on s'est débarrassé de personnes embêtantes. Hein, on le verra au chapitre 11, ça, si on y va. Malgré les apparences, ils sont vaincus et c'est prévu par le Seigneur. C'est prévu par le Seigneur et c'est permis par le Seigneur. Okay, c'est dans ses mains. Mais comme on se rappelle ce qui est dit à l'église de Smyrne, en gros, si tu es fidèle jusqu'à la... Sois fidèle jusqu'à la mort, je t'honorerai la vie. Hein? Au-delà de cette apparence de mort, ce qui est important, c'est la première résurrection qui fait que la seconde mort n'aura pas d'impact sur ceux qui ont été fidèles à l'agneau, ceux qui ont été appelés, élus, qui vont être fidèles et vaincre. Après, il y a le cinquième sceau, c'était les martyrs. Le sixième sceau, et le sixième sceau, on arrive comme à une fin. C'est étonnant, le sixième sceau, on dirait qu'il y a déjà la fin du monde, dès Apocalypse 6. Je vis la nuit ouvrir le sixième sceau, il y a un violent tremblement de terre, le soleil devient noir comme une toile de sac, les étoiles s'abattirent sur la terre, les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs, les rois de la terre, psaume 2. Si vous lisez le psaume 2, vous verrez que ça parle de ça. Les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes, crier aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé et qui peut subsister ? Donc on dirait qu'on arrive déjà à la fin, et ça va paraître être pareil à la fin, vers la fin des sept trompettes, vers la fin de cette colère, des sept coupes. Tout ça pour vous dire qu'il faut le lire avec des parallélismes et pas chronologiquement. Tout ça est symbolique. Et juste après, au chapitre 7, il y a un intermède. C'est les 144 000 et l'église triomphate. Alors ça, c'est intéressant. On va continuer là-dessus. On s'arrêtera quand on s'arrêtera, tant pis. Hein. Vous comprendrez que vous n'allez pas avoir tout à l'Apocalypse. Hein. C'était trop compliqué à... Voilà. Alors, l'interlude du chapitre 7. Il y a des choses intéressantes à voir. D'abord, 7 verset 3. Donc, je vis les 4 ans. 7 verset 3. Alors, il y a les 140... En fait, là, de 7.1 à 7.8, on va voir 144 000 personnes qui sont marquées du sceau de Dieu. D'abord, au verset 3, il leur dit « Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Alors, c'est important, parce que je ne sais pas vous, mais souvent, on entend parler et automatiquement, on est attiré par le sceau de la bête. C'est quoi ce 666 ? Eh bien, rappelez-vous que la première fois qu'on parle d'un sceau dans la Bible, c'est d'abord sur les serviteurs de Dieu. Et que le sceau ou le tatouage de la bête ne va être qu'une pâle imitation. Tout ce que font le dragon, la bête, le faux prophète, ils essayent de caricaturer Dieu, de l'imiter, de le singer. Mais c'est un chiffre imparfait. Mais le sceau, il est réservé aux serviteurs du Seigneur d'abord. C'est ça qui est important à retenir. Hein. Et après, j'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués. Ils étaient 144 000, 12 fois 12, 144 fois 1000 en totalité, de toutes les tribus du peuple d'Israël, à porter cette marque. 12 000 de la tribu de Juda, marquée du sceau, 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, et il va comme ça jusqu'à la tribu de Benjamin. Donc il y a deux choses là. Deux choses. D'abord, il entend le nombre de ceux qui furent ainsi marqués, et ils étaient 144 000, et après il y a tout un dénombrement. Celui qui vient en premier, c'est la tribu de Juda. C'était toujours la première tribu dans la guerre. La tribu de Juda, quand on partait à la guerre, c'est la tribu de Juda qui était en premier. Et ça fait référence au lion de Juda qui est guerrier. Donc là, on est en train de dénombrer une armée. Chaque fois qu'il y a un dénombrement, dans l'Ancien Testament, ça parle d'une armée. Donc là, le peuple de Dieu est vu comme une armée. Ils ont vaincu dans la guerre messianique, d'accord ? Ok ? Et ils sont 144 000. Ça représente la totalité. Verset 9. Après cela... Je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches. Ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte : Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient debout autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant : Amen. À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse. La reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute l'éternité. Amen. Alors l'un des vieillards prit la parole et me demanda : Ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? Je leur répondis : Mon Seigneur, c'est toi qui le sais et le repris. Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils ne connaîtront plus ni la faim ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Donc on voit que tout à l'heure on a lu une sorte d'anticipation du jugement. Là on voit une sorte d'anticipation de la félicité vue sous deux tableaux différents. J'entendis le nombre de ce qui fut ainsi marqué. Et on voit les 144 000 et qui sont décrites comme une armée. Je vis, et là, on voit une foule innombrable qui est décrite comme ceux qui ont été rachetés par l'agneau. En fait, ça fait penser, on peut faire un parallèle, et je pense que Jean fait un parallèle avec le chapitre 4 où il entend parler du lion de Juda et du rejeton de la racine de David et il voit arriver l'agneau égorgé. Et là, c'est pareil. On entend le nombre de ceux qu'il faut marquer, c'est les 140 000. Et ce sont des guerriers, ils ont vaincu. Et là, il vit une foule immense. Et en fait, déjà, on passe de 144 000 à la foule immense, c'est-à-dire que le salut s'est étendu. Il n'est plus juste pour Israël, mais il est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, juifs et non-juifs, de toute tribu, de toute nation, les quatre là. Et en plus, la manière de les avoir vaincus, eh bien, c'est en étant en suivant le chemin de l'agneau, c'est-à-dire purifié par le sang de l'agneau. Et ce sont ceux qui viennent de la grande étrance, ils ont blanchi et lavé leur tunique dans le sang de l'agneau. Alors là, il y a plusieurs manières de le comprendre. Il y a deux manières de comprendre. Alors, ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau, ils ont été purifiés par le sang de Jésus. Mais aussi, là, ils ne sont pas passifs. Ils ont blanchi. C'est eux qui font l'action. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interprètes qui disent qu'ils ont eu un témoignage qui a été fidèle jusqu'à la mort et qu'ils sont purifiés par le sang de Jésus, mais ils ont aussi donné leur sang en étant dans la suivance de leur modèle qui était l'agneau qui a sacrifié sa vie. Ça peut être interprété comme ça aussi. Et évidemment, on a après ceux qui siègent son trône, les abritera sous Satan, ils ne connaîtront plus ni faim ni soif, ils n'auront plus des ardeurs, il y a toute la félicité qui est déjà là. Hein. Car l'agneau est au milieu du trône, qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers la source de vive, et Dieu lui-même essuiera toute l'âme de leurs yeux. En gros, la présence de Dieu et de l'agneau, qui vont être vraiment amplifiés dans les chapitres 21, 22, est la source de toutes les bénédictions. C'est d'abord être dans la présence de Dieu et de l'agneau, tout le reste continue. Alors, on va s'arrêter là en tant que tel. Je vais faire un balayage rapide. À l'ouverture du...
Ce qu'on peut faire, ouais. C'est que la prochaine session, donc on a le mois de décembre, il n'y a pas de sacre biblique.
Ouais.
Et au mois de janvier, donc on reprendra. Et peut-être tu pourras continuer et terminer.
Ouais, si tu veux.
Voilà. Et donc ça permettra à ceux qui n'ont pas l'habitude de l'Apocalypse, peut-être Estelle, je ne sais pas si tu l'avais lu, le livre, donc peut-être de t'y plonger et de regarder un peu les difficultés de lecture. Voilà. Et peut-être ce serait bien qu'on puisse faire comme ça. Hein? Okay. Voilà, donc tu peux résumer ce que tu as dit. Hein?
Voilà. Donc. On continuera la prochaine fois la suite du livre. Donc je vous encourage, pour ceux qui écoutent ça, pour vous qui êtes présents, pour ceux qui écoutent, de lire le livre de l'Apocalypse, et on continuera à voir la suite avec les sept trompettes, les sept coupes de la colère, et puis surtout on verra des intermèdes très intéressants, et on verra, et à la fin, ça finit par le retour du Seigneur, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Enfin, voilà, on verra tout ça un petit peu. On verra l'apparition du dragon, de la bête, de la deuxième bête ou du faux prophète, Babylone, qui sont en fait, pensez juste qu'il y a un combat de Dieu contre l'idolâtrie. À qui va l'adoration? Est-ce qu'elle est due à Dieu? Ou est-ce qu'elle est due ou pas? Ou à ses créatures, ou à sa création? Et en fait, le diable, vous allez voir, va essayer d'attirer l'adoration. Il va même la contraindre. Tandis que l'adoration qui va être donnée à Dieu va être donnée de manière spontanée. Il dit que les rois de la terre, au moins, viendront, ou les peuples viendront donner son adoration. Enfin, on va voir un petit peu tout ça la prochaine fois. Donc, je vous encourage en effet à lire l'Apocalypse, parce que ceux qui ne l'ont pas lu, je pense que ça va être dur des fois de comprendre ce que je dis. Et ça aidera. Et à la prochaine fois.
Merci beaucoup.